sera donc Lyon, la Roma pour les Lyonnais en huitième de finale de la Ligue Europa. Et il est avec nous, Jean-Michel, avec toi, le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, qui est avec nous en direct.
Président, bonjour.
Bonjour Jean-Michel.
Bonjour président.
Président, d'abord merci d'être sur dans l'Arkéfoot et bravo pour cette qualification brillante. On va pas essayer de demander si Alkmaar était fort ou pas fort. En tout cas, réussir cette performance, ça a dû vous ravir.
Oui, on était très heureux puisque on a cette année des périodes de doute et on alterne en fait des performances on va dire très très positives, en particulier sur le plan offensif, et puis des performances on va dire beaucoup moins probantes, et en particulier avec quelquefois des erreurs défensives. Alors c'est pas toujours d'ailleurs uniquement les défenseurs qui sont concernés, mais en tout cas on était très heureux de ce match qui aussi bien à l'aller qu'au retour a été couronné de succès.
Le tirage au sort ne vous a pas été favorable. La Roma, c'est un des clubs qu'il lui fallait éviter.
Oui, il aurait fallu effectivement éviter Rome comme Manchester United, qui nous paraissait peut-être aussi avec Krasnodar les clubs les plus, on va dire, efficaces en ce moment. Maintenant, c'est un match qui sera un match important, et quand on a l'ambition de jouer une coupe européenne, il faut s'attendre à un tirage difficile, c'est le cas. On aura une revanche à prendre puisque nous avions il y a quelques années perdu et été éliminé avec
c'était il y a 10 ans, effectivement.
Voilà, il y a 10 ans
en Ligue des Champions.
Donc exactement, et donc voilà, donc c'est pas un bon tirage, mais on sait aussi que quelquefois il vaut mieux jouer un adversaire valeureux et démontrer les qualités plutôt que de jouer contre un adversaire qui apparaît bien inférieur et puis se faire éliminer.
Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, est ton invité. Jean-Michel dans l'Arkéfoot.
On l'a bien compris, président, que malgré l'adversité, votre ambition reste intacte pour essayer d'aller le plus loin possible, et ça veut dire éventuellement emporter cette Europa League.
Ben, on n'a pas trop le choix, en fait, parce que quand on veut faire rêver, quand on veut aussi démontrer la stratégie à long terme du club, avec des investissements considérables sur le plan des infrastructures, et qu'on n'est pas en meilleure position sur le plan du championnat et des coupes nationales, et qu'on a la chance par contre d'être en Europa League avec une bonne expérience quand même des joutes européennes. Hier, nous avions le plus 234e match européen, je crois, de l'Olympique Lyonnais. Eh bien, on se raccroche à ce qui peut exister, et c'est vrai que le style de l'équipe peut tout nous permettre, tant sur le plan positif, puisqu'on était allé aussi à Monaco gagner ce match en fin de saison dernière, et puis ces derniers matchs en Europa League. En Champions League, on avait aussi délivré contre la Juventus et Séville, qui sont en passe de se qualifier pour le quart de finale de Champions League, des matchs très intéressants. Donc voilà, donc on est un peu obligé de rêver, rêver. Et oui, donc on s'accroche à ça.
Mais voilà. Tout ça ne vous rend pas un petit peu frustré, parce que dernièrement, je vous ai vu lorsque Dijon menait 1-0 puis 2-1 sur la pelouse du Parc OL. Avec l'effectif que vous avez, j'imagine que vous rêviez, mais quand même, d'un championnat meilleur que celui que vous êtes en train de faire.
Oui, bien sûr. C'est vrai que on a loupé les matchs qui apparaissaient les plus à notre portée. Donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on passe de matchs formidables, parce que les matchs contre la Juventus, Séville, les matchs à Monaco, la deuxième mi-temps contre Paris au Parc OL, on a délivré plein de matchs très très intéressants. On a d'ailleurs un nombre de victoires qui est tout à fait significatif cette année en championnat, mais on a aussi un nombre de défaites non moins significatif. Oui. Donc voilà, donc il y a de l'inquiétude, mais il y a aussi de l'espoir, parce qu'on a un talent offensif qui est, je crois, sans égal. On n'a jamais eu une force offensive au moins sur le papier.
Oui, justement, vous ne cessez de dire que, et à juste titre, président, parce que je crois qu'au cours des trois derniers matchs, vous avez marqué 20 buts. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais il y a une question qui me brûle le bout de la langue, président. Au Mercato, vous avez fait venir Memphis, enfin vous avez transféré Memphis Depay pour une somme relativement conséquente que ne peuvent pas se permettre tous les clubs français. honnêtement, président, je ne sais pas si vous avez cautionné cette arrivée, mais vous ne pensez pas que avec un Mathieu Valbuena qui était en train de revenir au mieux de sa forme, vous ne pensez pas que cette somme-là eût été plus judicieusement utilisée en essayant de trouver une charnière centrale qui a perdu Umtiti, qui n'a jamais été remplacé. Honnêtement, que s'est-il passé pour faire ce choix?
Bon, en fait, on était, je dirais, parti pour recruter évidemment un ou deux très bons joueurs, puisque on a retrouvé une santé économique qui nous permet d'investir. Nous avons beaucoup discuté. Le coach a toujours eu une importance fondamentale dans les choix que nous devons opérer sur le plan du recrutement. Et donc, il a été retenu de préparer, en fait, l'après Rachid Ghezal, parce que c'était une de nos préoccupations aussi pour le futur. Mais nous avions proposé aussi au coach de renforcer la charnière centrale. Donc, on avait d'ailleurs une opportunité que tout le monde a connue d'un défenseur gauche qui était disponible en Angleterre. On n'a pas retenu parce que nous sommes sur le plan de la gestion très très fidèles. On a fait venir Nicolas Nkoulou l'année dernière. On a acheté aussi près de 10 millions d'euros Emmanuel Mamana, qui est à 20 ans, qui a déjà été international argentin. Alors c'est vrai que bon, on est déçu des performances, on va dire défensives, même si on sait que c'est pas uniquement la charnière qui ne répond pas toujours. Je dirais à nos attentes, c'est souvent une organisation n'aboutit pas. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup hésité et on a fait ce choix-là. Mais on sait aussi que si on veut progresser dans la hiérarchie, il faudra se renforcer dans ce secteur
de
jeu.
Ma mémoire me trahit, mais je n'ai pas souvenir d'avoir vu le nom de ce défenseur gauche.
Oui, du côté de l'Angleterre, effectivement, Jean-Michel, vous parlez de qui, Jean-Michel Aulas?
Non, mais bon, tout le monde sait que c'est Sako qui aurait pu venir chez nous.
Ah oui, bon, oui. Le gaucher, effectivement. Plutôt que l'arrière gauche.
Jean-Michel Aulas est l'invité de l'Arc et Foot. Jean-Michel, vous avez annoncé il y a quelques jours que des ventes significatives interviendraient avant le 30 juin prochain. On imagine que là-dedans, il y a Alexandre Lacazette. Aujourd'hui, combien vaut Alexandre Lacazette?
Alors bon, j'ai déjà répondu à cette question hier sur une télévision qui me posait la question. Alors, il faut distinguer les deux choses, c'est-à-dire il y a la présentation des comptes qui sont de très très bons comptes de l'Olympique Lyonnais depuis l'année dernière, et je dirais la réponse technique ou éventuellement individuelle. Donc c'est vrai qu'on a suffisamment de sollicitations aujourd'hui pour un certain nombre de nos joueurs pour dire qu'avant le 30 juin, il y aura des ventes significatives. Maintenant, bon, il y a eu l'incident le jour du derby avec Alexandre Lacazette qui en a souffert beaucoup. Et je n'ai absolument pas dit lors de cette réunion de presse que ce serait Alexandre ou Corentin Tolisso qui partirait. On a de nombreuses propositions qui sont intervenues. Ceci étant, on va tout faire en fonction
vous
des
résultats. Vous
réfléchissez
à partir de combien, Jean-Michel?
Vous parlez de quel joueur?
Pour Alexandre Lacazette.
Non, mais bon, vous savez qu'on a refusé l'année dernière des offres qui étaient aux alentours de 40-45 millions d'euros. Et donc, voilà, maintenant...
Donc au-delà.
Oui, voilà, donc c'est au-delà de ces sommes-là. Maintenant, si on peut garder Alexandre, on fera tout pour le garder. Parce que des joueurs formés au club qui marquent 25 buts par an et peut-être 30 cette année, ça ne court pas les rues. Et de toute façon, si Alexandre devait partir pour un très grand club, parce que je pense qu'il ne partira pas pour un club équivalent...
Vous pourriez le vendre au PSG?
Ça dépend pas de moi. Pour qu'il y ait une vente, il faut que les trois parties soient d'accord. Il faut d'abord que le joueur...
Mais sur le principe, si toutes les conditions financières sont réunies, vous n'émettriez pas d'obstacle pour cela?
Non, parce que, bon, je pense qu'il y a toujours, vis-à-vis du PSG, je dirais, des paroles qui ont pu être... évoqué à un moment donné, mais je dois dire que bon, ce que fait le PSG en Coupe d'Europe et d'une manière générale pour le football français est excellent. Donc il n'y a pas du tout d'opposition et on est dans une bagarre avec le PSG, avec Monaco, avec Marseille, avec peut-être Lille, Saint-Etienne et Nice pour faire en sorte que le football français progresse. Et ce qui est important, c'est d'aller gratter des points pour le ranking UEFA, puisque maintenant, c'est ce qui rapporte le plus sur le plan des ressources télévisuelles. Donc voilà, non, il n'y a pas d'opposition. Et encore une fois, bon, j'ai de très bonnes relations maintenant avec Nasser. Il n'y a pas d'opposition. Si les offres sont concurrentiel avec d'autres, pourquoi pas, mais c'est pas d'actualité parce qu'il n'y a jamais eu d'offre le concernant, et j'ai l'impression que lui, s'il devait partir, encore une fois, et je ne pense pas que toutes les conditions soient réunies
ce serait davantage
aujourd'hui,
pour l'étranger, c'est ça.
Ce serait plutôt pour l'étranger, ouais. D'après ce que j'ai
Président, je rappelle juste, capitaine, que Jean-Michel Aulas est ton invité dans l'Arc et Foot ce soir.
En évoquant, en anticipant ainsi, me vient à l'idée que peut-être aussi vous préparez le terrain, ce qui est normal, et puis se rappeler que vos deux dernières intersaisons, notamment une avec le cas Alexandre Lacazette, les deux intersaisons d'été, on ne parle pas du mercato d'hiver, mais d'été, vous ont un tout petit peu plombé dans vos résultats définitifs. Il y a deux ans, le début de saison, absolument, n'avait pas été bon. Cette année, il a été également très moyen. N'est-ce pas l'occasion aujourd'hui de vous dire, bon, tout ça, c'est du passé et on va préparer dès aujourd'hui la saison 2017-2018?
Bon, dans la théorie, on peut penser que ça peut participer à une évolution de ce type-là, mais ceci étant, vous le savez comme moi, Jean-Michel, que les choses ne se passent jamais comme cela, en tout cas pour Lyon. On n'est jamais, je dirais, aussi anticipateur. Là, on a anticipé le départ de Rachid parce qu'on a tout fait pour le faire signer, des propositions qui sont
énormes. C'est acté son
énormes.
Départ, du coup, Jean-Michel Aulas ?
Pardon ?
Le départ de Ghezzal est donc acté en fin de saison ?
Non, il n'est pas acté, puisqu'on est toujours en discussion, mais quand vous avez un joueur qui arrive en fin de saison et qui n'a pas re-signé, si vous ne préparez pas son remplacement, et en fait, la discussion avec Memphis Depay dure depuis quelques temps, ça faisait partie des jeunes joueurs qui nous intéressaient dans un profil différent de ce que nous avions, parce que c'est un joueur aux qualités techniques vraiment essentielles, mais aussi physiques, c'est-à-dire que c'est un joueur qui va plus vite que beaucoup de défenseurs et qui a la capacité à éliminer, et on a besoin de faire du spectacle, d'avoir une équipe offensive. C'est en tout cas les consignes que l'on a données au coach Bruno Genesio, qui fait très bien son travail.
Président Aulas,
pour ma part.
Il se murmure également que vous planchez sur un directeur sportif. Est-ce vrai? Et quid du coup de la réorganisation de tout ce secteur-là, où il y a Gérard Rouillet et Bernard Lacombe qui travaille actuellement?
Non, mais bon, je suis quelqu'un de pragmatique. Bon, on arrive à une époque où Gérard Rouillet a re-signé l'année dernière pour un an. On essaye de préparer non seulement ce qui se passe en France, mais à l'étranger. Vous avez vu qu'on a fait plein d'opérations avec la Chine, on s'apprête à en faire avec les États-Unis. Et l'image, l'aura de Gérard, au-delà des conseils qu'il peut prodiguer à Bruno Genesio, est extrêmement importante pour l'Olympique Lyonnais. Quant à Bernard, il est là depuis 30 ans avec moi.
Mais est-ce qu'un poste de directeur sportif va être créé, Jean-Michel Aulas?
Non, il n'y a pas de décision de prise aujourd'hui. Maintenant, ça dépendra, comme je l'ai évoqué, aussi de nos performances. Et comme on a toujours bien réussi les fins de saison, c'est toujours délicat de dire en pleine compétition qu'on va bouleverser des choses qui peuvent très très bien marcher. Car je reste persuadé, même si c'est difficile, qu'on va faire comme lors des 10 dernières saisons, c'est-à-dire une fin de championnat vraiment positive, et encore une fois, l'Europa League est une opportunité pour Lyon de montrer qu'il y a beaucoup de qualité. C'est très difficile de rester dans le championnat français dans les 5 premières places, et ça fait 20 ans qu'on est qualifié en Coupe d'Europe, donc ça veut dire que depuis 20 ans consécutivement, on termine toujours ou sur le podium ou au pire à la 5e place, et donc voilà, donc j'ai horreur
vous souhaitez
de pousser à l'avance les choses qui marchent pas si mal que ça.
Vous espérez quand même retrouver l'embellie qui était la vôtre, parce qu'il y avait du boulot aussi, mais dans les années 2000, de 2000 à 2008, l'Olympique Lyonnais, quasiment dans son recrutement, président, ne s'est jamais trompé, ou très très peu, en tout cas le bon l'emporter largement sur le mauvais. Et est-ce que c'est pas cette période-là que vous espérez retrouver en recrutant un directeur sportif?
Non, mais pour le moment, encore une fois, il n'y a pas de décision de prise. Bon, vous savez, on discute toujours sur la valeur des recrutements. Nicolas Nkoulou, je pense pas que ça soit un mauvais recrutement. Emmanuel Mamana non plus. Riba, qui est international polonais, non plus. Il était en fin de contrat. Donc on n'est pas payé de retour autant qu'on le souhaiterait, c'est vrai. Mais je pense pas qu'on se soit autant trompé. On a eu par le passé des échecs aussi pendant la période la plus faste de l'Olympique Lyonnais. Mais vous savez, globalement, par rapport à ce que je vois sur les grands clubs et le montant des investissements qui sont consacrés, on ne s'est pas autant trompé que ça. Et comme on a un centre de formation qui est exceptionnel, hier, il y avait près de 11 joueurs, je crois, sur 18 qui étaient issus du centre de formation. On a donc des approches qui sont différentes et l'époque économique que l'on va aborder maintenant avec une ambition qui est déclarée,
président Aulas,
effectivement de retrouver le plus haut niveau et d'avoir les moyens de nos ambitions.
On aimerait vous garder pendant des heures et des heures, c'est passionnant de vous écouter, on est pris par le temps malheureusement. Une dernière question sur les élections à la FFF, Noël Le Graët était en conférence de presse aujourd'hui pour lancer sa candidature, il a expliqué qu'il vous avait choisi car vous étiez le meilleur en réponse à quelques voix qui disent que vous pourriez handicap. Pour sa candidature.
Je peux compléter, président.
Vas-y, Jean-Michel.
Est-ce que, président, d'abord, le président Le Graët nous a dit, moi, je veux ce qu'il y a de meilleur. Est-ce que cette candidature, c'est aussi parce que vous n'avez plus tout à fait la même place, la même importance à la Ligue du football professionnel? Et puis, je voudrais juste vous dire une chose. Vous connaissez votre image auprès du foot amateur. Alors, je la tempère tout de suite parce que je sais que au sein de la Ligue Rhône-Alpes, la Ligue amateur Rhône-Alpes, le travail qui a été fait en concertation avec l'Olympique Lyonnais est de qualité, mais ce n'est pas connu de tout le monde. Est-ce que vous allez arriver à convaincre que vous êtes aussi l'homme du football amateur?
Bon, tout d'abord, sur le premier point, c'est-à-dire les relations au sein de la Ligue, je partage pas l'analyse de ceux qui pensent que j'ai moins d'aura. Je pense que j'en ai toujours autant.
Votre dernière élection a été difficile, président.
Oui. Pas autant que ça, puisque tout le monde avait prédit que ça serait difficile et j'ai été élu avec 90% des voix. On m'a demandé d'être à nouveau vice-président sur les relations les plus importantes de la Ligue professionnelle. Et je souhaite aujourd'hui, après avoir été pendant 20 ans à la Ligue, après avoir été président du G14, c'est-à-dire des plus grands clubs européens, d'être membre du board de l'ECA depuis sa création, puisque je suis membre créateur avec Calais Rummenigge de l'ECA. Je souhaitais effectivement me rapprocher du monde amateur, non pas en tant que sachant, mais en tant que, en fait, complément du monde amateur, parce que ce qu'on a réussi à Lyon sur le plan de la formation peut être réalisé partout en France. Et ayant le plus grand respect pour ce qu'est la fédération, je sais aussi, parce que les équipes féminines ont été générées, développées au sein de la fédération, qu'on peut, avec beaucoup d'humilité, avec la reconnaissance du travail de la base, eh bien faire en sorte de progresser. C'est la raison pour laquelle Noël m'a demandé de le rejoindre et de m'occuper de la DTN. Donc c'est pas du tout avec l'ambition d'avoir un pouvoir quel qu'il soit, c'est l'ambition d'apporter une compétence que j'ai pu analyser dans tous les autres pays européens. Donc voilà, mais
merci beaucoup,
pas
président.
Avoir une mauvaise image auprès du monde amateur et vous verrez puisqu'on aura l'occasion de se voir à l'Assemblée générale, je crois, prochainement dans votre région, Jean-Michel, que l'image est plutôt très positive aussi.
Merci beaucoup, président Aulas. On est un petit peu pris par le temps, on en est désolé, mais bien vous sûr, serez de retour très très vite sur RMC. Merci, président Aulas.